Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, on parle d'une série chorale en 8 épisodes qui prend le pouls de la société turque. C'est Bir Baskadir, diffusé sur Netflix. On va en parler tout de suite avec Emeline. Salut.
Salut, ça va?
Oui, toi. Oui. Alors, Bir Baskadir a fait le tour du monde, mais de quoi s'agit-il?
Eh bien écoute, ça raconte l'histoire de Meryem, qui est jouée par Öykü Karayel. C'est une employée de maison qui commence un travail thérapeutique pour soigner ses inexplicables évanouissements. À partir d'elle, la série déroule une galerie de personnages. Son frère Yacine, chez qui elle vit avec sa femme Rui, et leurs deux enfants. Sa psychiatre Peri, la psy de sa psy Gulbin, le type avec qui couche celle-ci. Bref, tous ces personnages sont connectés, du village rural de la périphérie d'Istanbul aux stars de soap-opéra de la métropole. C'est d'ailleurs pour cela que le titre Ethos a été choisi pour exporter la série dans le monde. Le terme désigne l'ensemble des caractères communs d'un groupe d'individus appartenant à une même société. Leur comportement est envisagé comme l'indice de leur classe sociale.
Oui, tu fais bien de rappeler que c'est le titre anglais, effectivement, de la série. Mm-hmm. C'est aussi une production originale turcophone pour Netflix, qui a été diffusée à l'automne dernier et cet hiver. D'ailleurs, à l'origine, elle était pitchée comme un thriller social. Et elle a connu un immense succès à la fois en Turquie, où on trouve tout un tas de mèmes sur Internet, mais aussi à l'étranger, où elle est traduite dans 18 langues. Le showrunner s'appelle Berkun Oya, et depuis, il a réalisé une autre série, qui est cette fois un polar, toujours pour Netflix, qui s'appelle Masoum. Et la journaliste Ariane Bonzon, dans Slate.fr, nous a expliqué que Bir Baskadir était à mille lieues des grandes reconstructions historiques ottomanes ou des feuilletons à l'eau de rose qui ont jusqu'ici fait la réputation de la Turquie à la télévision, en particulier dans le monde arabe. De son côté, le quotidien Evrensel a écrit « Nous ne cessions de nous plaindre des séries turques produites par Netflix, de considérer qu'elles nous ridiculisaient aux yeux du monde entier et qu'elles ne représentaient pas la Turquie ». Et donc pour ce journal Stambouliot, Ethos, donc Bir Baskadir, est sans conteste ce que Netflix a produit de mieux en Turquie à ce jour. On peut lire tout ça dans un article de Courrier International. Alors tu l'as dit, c'est une série qui dresse le portrait de 6 personnages féminins contrastés. Et c'est d'ailleurs pour ça notamment qu'elle a attiré notre attention.
Oui, parce que ce qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est qu'elle présente un éventail assez large de féminité et de génération entre 20 et 40 ans. On va de la féminité rurale à celle qui est plus religieuse et prolétaire, de la bourgeoisie blanche aux transfuges de classe ou aux féminités émancipées. Aussi, on a rarement, si ce n'est jamais, vu de personnage principal être incarné par une femme de ménage voilée. Il y a une diversité des situations et de trajectoires, de parcours conjugaux. Il y a des femmes célibataires, des femmes mariées, des femmes qui ont des plans cul, une lesbienne dans le placard et une héroïne pleine de contradictions. Elle a beau être traditionnelle, elle finit par apprécier aller chez sa psy.
Et oui, comme quoi, tout arrive.
Tout peut arriver.
Alors par ailleurs, on a lu un certain nombre d'articles qui titraient un peu n'importe comment que c'était une série, je cite, qui lève le voile sur la Turquie. Au secours.
Oh mon Dieu.
Voilà, passons à autre chose. En tout cas, tu l'as rappelé, d'emblée, cette série s'ouvre dans le cabinet d'une psy et donc elle pose la question de la santé mentale, mais aussi de son accessibilité, puisque Meryem, l'héroïne, se rend à reculons à ses séances et qu'elle n'arrive pas tout d'abord à comprendre que ses symptômes sont peut-être le signe d'un mal-être refoulé ou d'un problème plus profond qui s'exprime ainsi par une somatisation. Par ailleurs, sa belle-sœur, donc le personnage de Rouillet, est elle-même en pleine dépression. Elle ne parle plus, elle dort, elle pleure toute la journée, mais elle ne reçoit aucun traitement médical. Donc, Meryem, et sans doute d'une certaine manière Rouillet également, incarne cette Turquie où le refoulé sexuel produit un effet assez explosif de cocotte minute à force d'être réprimé. Et d'ailleurs, c'est une autre des thématiques qui est abordée par la série. C'est la sexualité et la sexualité comme privilège, puisque tout le monde n'a pas de vie sexuelle. Par exemple, quand on est une lesbienne et qu'on n'est pas out, qu'on doit se cacher, lorsqu'on est une femme célibataire et que l'on doit conserver sa respectabilité. Et donc, il faut soit être dignement mariée, soit une femme bourgeoise, donc en capacité de vivre des relations libres.
Tout à fait, et on y voit aussi les violences, notamment les violences lesbophobes. Lorsqu'un couple se fait chasser d'une boîte de nuit, le stress post-traumatique après des violences sexuelles, la question de la vengeance et du pardon, et puis surtout, globalement, on y voit la solitude des femmes, qu'elles soient en couple ou non.
Oui, parce que c'est une société, la société turque, qui est d'ailleurs assez proche de la nôtre à cet égard, puisqu'elle est marquée toujours par la binarité des sexes. Et donc, en miroir, on a également une galerie de personnages masculins. Et là, il y a du gros dossier.
Et ouais.
Puisqu'on voit notamment la transmission de la violence entre les pères, les frères et les maris qui sont montrés comme violents ou absents. C'est le cas du personnage de Yassine qui joue donc le frère de l'héroïne Meryem avec qui elle vit. C'est un ancien militaire qui travaille dans une boîte de nuit et qui tyrannise toute la maisonnée qui est à la fois très colérique et irascible. À Istanbul, donc dans son versant plus urbain, il y a aussi le personnage de Sinan, qui est ce qu'on pourrait appeler, je pense, un fuckboy.
Un fuckboy, tout à fait.
Donc c'est une sorte de hipster, voilà, qui a des aventures amoureuses. Par ailleurs, dans le village, il y a un personnage de religieux qu'on appelle en turc un hoca, donc un enseignant coranique, qui est un peu à la masse, mais qui n'est pas extrémiste pour autant, qui n'est pas au courant que sa fille est lesbienne et qui dispense des conseils plus ou moins avisés aux villageois et aux villageoises. Alors heureusement, il y a aussi quelques figures un peu plus douces, sinon ce tableau de la masculinité turque serait vraiment désespérant. Mmh. En tout cas, on le voit également dans la réception de cette série, puisqu'elle a provoqué tout un débat en Turquie en montrant la tension entre une société patriarcale et une société multiculturelle, ou voilà, comme on dit chez nous, entre laïcité et religion.
Mmh. Bir Başkadir, le titre original, signifie « c'est différent ». La série se veut au chevet de la Turquie contemporaine, en auscultant ses lignes de fracture. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le récit s'ouvre et se dénoue chez une psychiatre en mode exorcisme national.
Mmh.
Le titre, c'est aussi une référence méta au fait que les séries locales, les Dizzy, seraient nulles, mais que pour celle-ci, justement, c'est différent. Et puis il y a ce tacle de mise en abîme, je cite « maintenant, il y a une femme voilée dans chaque série ». Cette phrase, prononcée par la mère de Perry, la psy rigide, a fait scandale en Turquie parce que les personnages regardent une chaîne d'opposition et que justement les kémalistes, donc c'est-à-dire les laïcas, étaient assez vexés qu'on les présente en réactionnaires et nostalgiques du pays des années 80, qui ne comprennent plus rien à leur environnement.
Oui, tu fais bien de donner un peu de contexte, puisque donc cette série, qui est un énorme succès en Turquie comme à l'international, a déchaîné localement un certain nombre de passions. Nous, on n'en saisit pas nécessairement toutes les nuances, ni les appartenances à chaque communauté. D'ailleurs, le romancier Yigit Bener l'a très bien expliqué à Télérama. Pour lui, le récit met en opposition à la fois conservateurs musulmans et modernistes kémalistes, donc les laïcs, Kurdes et Turcs, hommes et femmes, métropoles et provinces, et aussi en filigrane, les classes sociales. L'article de Slate qu'on a déjà cité ici parle également de nouvelles élites islamiques qu'on ne voit pas réellement dans la série, mais qui font face, en tout cas dans la société turque, à ce qu'on appelle les élites laïques ou les Turcs blancs, c'est-à-dire donc des Turcs qui ne sont pas kurdes. Et ce sont donc des élites occidentalisées. Et d'ailleurs, il faut préciser que le showrunner lui-même appartient à cette catégorie sociale.
Pour brosser un peu le contexte, la Turquie connaît un durcissement conservateur et religieux avec l'AKP, la droite dure au pouvoir, et ce même s'il y a eu le mouvement de résistance de Gezi. Alors après, je ne sais pas à quel point il est possible d'avoir un discours critique, sachant que l'opposition est souvent mise en prison. D'ailleurs, sans surprise, les conservateurs n'ont pas aimé la série et l'ont critiquée avec véhémence. Selon Slate.fr, le quotidien ultra-conservateur nationaliste et religieux Yeni Akit a violemment dénoncé Netflix pour l'immoralité de cette série qui s'attaquerait aux valeurs sacrées de l'islam.
C'est intéressant parce que la série a été un peu critiquée des deux côtés. Ouais. Moi, une journaliste turque que je connais m'a dit qu'elle trouvait que le scénario de la série était plein de clichés et manquait de nuances et que, selon elle, c'était surtout une série bonne pour l'Europe. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue d'une personne turque. Une autre journaliste qui est, elle, française, mais basée en Turquie, m'a un peu parlé de la réception de la série autour d'elle. Elle trouve que ça représente effectivement des femmes, mais que ces femmes ne cèdent pas entre elles. Et c'est vrai que c'est intéressant de le noter. Mmh. Selon elle, certaines personnes qui ont regardé la série ont dit, là aussi, qu'elle était caricaturale, mais surtout qu'elle était en décalage avec la société d'aujourd'hui et qu'elle montrait plutôt la Turquie d'il y a 10 ans, puisque la situation se serait beaucoup polarisée depuis. Selon elle, le mariage reste très valorisé en Turquie et c'est quelque chose que l'on voit dans la série. Il y a assez peu de discours critiques sur cette institution. Mmh. Et elle m'a également précisé que les hommes turcs seraient très colériques et que la société, un peu comme la série, justifierait et valoriserait ces comportements qui, nous, en tout cas, peuvent nous paraître aberrants ou en tout cas violents. Mais elle a quand même retenu un point positif. Elle dit que le personnage de la fille lesbienne de l'imam, c'est quand même un personnage très gonflé pour une production turque.
Ouais, et justement, c'est pourtant à peine suggéré, enfin, c'est jamais dit explicitement que ce personnage est lesbienne.
Oui, il n'y a pas de scène de sexe explicite.
Voilà, exactement, il n'y a même pas de baiser ou quoi que ce soit. Hein.
Ouais.
Et oui, effectivement, les femmes, elles sont plus seules que solidaires, et alors même que la question des femmes est très actuelle et fédératrice en Turquie, il y a de nombreux mouvements féministes turcs, comme Ayak, qui se battent en ce moment, notamment pour dénoncer les féminicides et conserver la Convention d'Istanbul, un texte de loi de 2011 et qui protège les droits des femmes, des communautés LGBTQ et des enfants, et dont le président Erdogan s'est retiré. Ça a été un vrai camouflet pour les femmes turques.
Ces femmes sont descendues dans les rues d'Istanbul, une manifestation de colère à l'appel des associations de défense des droits des femmes. Car la Turquie est passée à l'acte. Après des mois de menaces et de retraits, Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie se retirait de la Convention d'Istanbul.
Oui, donc pour résumer, Istanbul n'est plus dans la Convention d'Istanbul.
Voilà.
Tout ça est tout à fait normal. Alors, on peut écouter Solène Poeiraz, qui est doctorante à l'EHESS et qui a décrypté la série dans l'émission Histoire en série sur YouTube.
Faire un point sur le voile de Maryam. Le voile de Maryam représente pas tellement la religion, mais plutôt, j'ai l'impression, enfin je l'interprète comme ça, ce voile incarne l'arrivée aussi des gens d'Anatolie dans les villes, des populations d'Anatolie, des grandes migrations internes qui ont encore lieu, qui continuent à se produire. On a encore des arrivées dans les villes, donc en fait c'est l'urbanisation de la population en Turquie. Une population qui dérange, hein, parce que c'est une population qui est moins au fait de la mondialisation, moins au fait de l'urbanisation, de la cité, quoi, de la ville. Et qui donc importe ses codes sociaux et comportementaux dans le cœur de la ville. Et ça, enfin, c'est plutôt ça que le voile représente, plutôt qu'une conviction religieuse. Enfin, c'est pas un voile très, comment dire, très marqué.
En tout cas, il est certain qu'il ne suffit pas de regarder cette série pour saisir la société turque dans son ensemble, ou ne serait-ce qu'un pan de la vie des femmes en Turquie.
Oui.
C'est le moment qu'on attend tous et toutes de donner notre avis. Qu'est-ce que tu en penses alors, toi ?
Alors moi, pour le coup, j'ai vraiment aimé. C'était mon coup de cœur de début d'année. Et pour le moment, je n'ai pas vu de série qui l'a égalé, malgré les défauts qu'on a cités. J'ai beaucoup apprécié les silences qui disent long, entre guillemets, des tabous de la société turque et des incompréhensions entre les personnages. J'ai beaucoup apprécié aussi les références à la psychologie, notamment à travers Jung. La photographie exceptionnelle, puisque moi, j'ai découvert Istanbul j'y suis jamais allée. J'ai découvert Istanbul et donc aussi cette fracture entre l'urbain et le rural.
Oui, et c'est pas l'image des banlieues qu'on a chez nous.
Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était vraiment très différent et l'image était très belle. Et j'ai aussi éprouvé beaucoup de tendresse pour les personnages et les acteurs, les actrices. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi ?
Oui, c'est vrai ce que tu dis sur les silences. C'est pas un produit Netflix qui est manufacturé comme d'autres pour être monté de manière très rapide. Mais on y reviendra. Tu as raison de le souligner parce que à part certains films de Nuri Bilge Ceylan qui peuvent être assez contemplatif, il faut le dire, ou des livres du prix Nobel de littérature Orhan Pamuk, on est globalement assez peu exposé à des productions culturelles turques. Donc je te remercie pour cette suggestion. Et je suis d'accord avec toi sur le plan esthétique. Effectivement, il y a un certain nombre de très beaux plans séquences qu'on voit assez rarement dans des séries. Pour autant, moi je me suis interrogée, est-ce que ces problématiques seraient transférables à la France ? Est-ce que c'est pertinent de se poser la question ou pas. Moi, en tout cas, je l'ai regardé de mon point de vue, qui est un point de vue blanc et occidental. Et ce que j'ai trouvé intéressant pour un regard extérieur, c'est que ce ne sont pas les femmes voilées ici qui sont montrées comme des victimes et que la série n'oppose pas frontalement femmes dites opprimées et femmes dites libérées. Elle montre que finalement, toutes les femmes subissent une forme d'aliénation patriarcale, certes de manière différenciée.
Tout à fait.
Néanmoins, je me suis quand même demandé si la série, avec donc son showrunner qui fait ici son autocritique de Turc blanc, et en voulant peut-être plaire à tout le monde et manger un peu à tous les râteliers, n'était pas au fond un petit peu réactionnaire, en montrant que peut-être finalement les femmes que l'on considère comme émancipées sont malheureuses, n'est-ce pas, car elles n'ont pas de mari, et que finalement le mari très conservateur et très irascible n'est pas si méchant que ça à la fin. Et la fin de la série, que je ne révélerai pas, m'a interrogée et laissée un peu perplexe. En tout cas, je note quand même qu'il y a un point misandrie dans cette série qui m'a fait très plaisir, puisque tous les personnages masculins sont quand même plus horribles les uns que les autres. Et notamment le personnage du hipster fuckboy, qui n'est même pas caractérisé à part par son argent. Et donc voilà, j'ai beaucoup ri lorsqu'il se fait justement châtier. Vous le verrez dans la série. Voilà, mais c'est vrai que je me suis aussi demandé si c'était une forme de moralisation de son mode de vie considéré comme dissolu ou pas assez traditionnel. Je ne sais pas.
Et c'est vrai, effectivement, que les personnages masculins sont un peu sont assez détestables. Moi, pour le coup, j'ai quand même eu de la tendresse pour le Hoxha, parce que peut-être plus parce qu'il était vraiment un peu à la masse, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Il arrive que des merdes, le pauvre.
Oui, voilà, le pauvre. Voilà. Bon, sinon, moi, ça m'a pas donné l'impression que le récit répondait à un cahier des charges, contrairement à toutes les autres productions Netflix depuis au moins 5 ans. Et ce, alors qu'il y en avait sans doute un, puisqu'on l'a vu, il y a énormément de sujets qui sont abordés, le voile, l'armée, les différents groupes sociaux, l'écart entre l'élite kémaliste, donc laïque, délaissée, et les ruraux. Et tout ça, en fait, ça m'a peut-être pas marqué, parce que, au final, ce sont des problématiques qui me sont plus étrangères.
Ouais, c'est vrai. Néanmoins, bon, à mon avis, je trouve qu'elle pâtit quand même un petit peu de certaines limites qu'ont en commun un certain nombre de séries Netflix, c'est-à-dire d'être un peu surproduite et d'essayer tout de même de traiter beaucoup de sujets à la fois, à tel point qu'il y a d'ailleurs un personnage handicapé et la question de l'adoption. Et je trouve que ces deux thématiques-là tombent un peu comme un cheveu sur la soupe et ne sont pas très bien mêlées au reste du scénario, même si l'intention est tout à fait louable, évidemment. Il faut aussi prendre en compte le fait que cette série, c'est un produit qui est aussi destiné à l'exportation. Et donc, il y a la volonté à la fois de plaire en Turquie, mais aussi de montrer à l'extérieur qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Donc moi, je trouve que c'est aussi une limite de cette série. Après, effectivement, certains aspects, comme toi, je pense, m'ont échappé, comme la question de la répression militaire dans les régions kurdes. Et sans contexte, effectivement, on a du mal à saisir des choses qui sont parfois des allusions entre les personnages, notamment le personnage de Gulbin qui parle kurde, mais c'est quelque chose que l'on n'entend pas si on ne parle que français et pas turc. Voilà, après, j'ai aussi trouvé qu'il y avait quelques moments un peu ridicules de soap opéra ou de telenovela, mais je pense que c'est peut-être aussi des clins clin d'œil aux séries turques plus traditionnelles, et je pense notamment au générique qui est très très long, et en musique. Donc là, on a l'impression d'être en croisière sur le Bosphore. C'est un peu de son, de ambiance. Mais en tout cas, si en ce moment vous regardez En Thérapie en français, allez-y, vous pouvez directement enchaîner avec Bir Baskedir. Voilà, bon bah écoute, j'espère qu'on a fait le tour de la question.
J'espère aussi.
De tous les problèmes actuels de la société turque. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long, où l'on parlera de féminisme washing. Merci, salut Emine.
Salut.
Quad Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Emeline Amétis,
mixage Laurie Galigani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meilleur-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.